Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 13 décembre 2007, l'écrivain Dominique Fernandez était reçu sous la coupole par ses confrères de l'Académie française et de nombreux invités. C'est en effet au fauteuil de l'académicien Jean Bernard que Dominique Fernandez a été élu en mars dernier. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette séance solennelle durant laquelle le nouvel académicien Dominique Fernandez a prononcé l'éloge de son prédécesseur, le médecin et écrivain Jean Bernard, disparu en avril 2006. Jean Bernard était à la fois membre de deux académies, l'Académie des sciences et l'Académie française. Vous pourrez également entendre le discours de Pierre-Jean Rémy de l'Académie française en réponse qui présente le parcours et l'œuvre de l'écrivain Dominique Fernandez. Les tambours s'interrompent, la séance s'ouvre, la parole est à Dominique Fernandez pour la lecture de son remerciement.
Mesdames et messieurs de l'Académie, l'illustre d'Alembert, dont vous m'avez fait l'honneur, et je vous en remercie, de m'appeler à occuper le fauteuil, parlait de l'égalité académique. Il voulait dire que tous les académiciens, quelle que soit leur origine sociale, leurs convictions, leurs erreurs ou celles de leurs parents, sont égaux. Au nom de cette égalité, je vous demande d'accueillir avec moi l'ombre de quelqu'un qui avait plus de titre à prendre ma place et à qui je dois d'être celui que je suis. Ramon Fernandez, mon père. Il s'est fourvoyé en politique et j'ai toujours condamné publiquement sa conduite pendant l'occupation. Collaborer avec les Allemands, non. C'était indigne d'un homme qui avait été l'ami de Proust, de Gide, de Saint-Exupéry, de Malraux, qu'il était encore de Paulhan et de Mauriac, malgré leurs divergences. Pendant la Première Guerre mondiale, en pleine nuit, Proust traversa Paris, plongé dans les ténèbres, et sonna à la porte de mon père, 44 rue du Bac. « J'ai besoin, dit-il, que vous me prononciez deux mots, senza rigore. » Mon père ne savait pas l'italien, mais était réputé pour ses dons d'imitation. « Merci, lui dit Proust, j'ai l'intention de mettre ces deux mots dans une page de mon roman, et j'avais besoin de les entendre résonner avec leur sonorité musicale exacte. Quand on a vécu une telle expérience, il paraît inconcevable qu'on se rende à Weimar en octobre 1941 sur l'invitation du docteur Goebbels, puis qu'on publie dans plusieurs journaux de l'occupation un éloge dithyrambique de cet individu que par ailleurs on méprise, lui et toute sa logorée nazie. Aucune excuse donc pour mon père de ce point de vue-là. Mais est-ce une raison pour oublier, occulter son œuvre littéraire ? Elle a été scandaleusement mise de côté après la Libération. Son Molière, non seulement le meilleur livre jamais écrit sur Molière, mais un des plus forts ouvrages de critique littéraire de tous les temps, son Proust, publié en 1943, comme un acte de résistance intellectuelle contre l'idéologie dominante, son Balzac sont de merveilleuses synthèses, des vues d'ensemble sur l'œuvre profonde, exhaustive, à l'antipode des dissections pointilleuses pratiquées aujourd'hui. Autant les opinions professées pendant la guerre par mon père, je parle d'opinion, car il ne s'est rendu coupable d'aucune action répréhensible, sauvant au contraire des Juifs, prononçant, seul parmi les écrivains collaborateurs, l'éloge funèbre de Bergson, publiant ce livre sur Proust. Autant ses opinions politiques ont toujours été pour moi inacceptables, autant j'admire son œuvre. Et je vous ferai cet aveu. Parmi les motifs qui m'ont poussé à souhaiter faire partie de votre compagnie, le dernier n'a pas été de faire retentir sous la coupole, à côté de celui de Richelieu, le nom de Ramon Fernandez. Balzac. Jean Bernard, auquel je suis si fier et en même temps si intimidé de succéder, a intitulé un recueil de textes « Le syndrome du colonel Chabert ». Il y est raconté, entre autres, l'histoire d'un architecte atteint d'un cancer des os et auquel les médecins donnent 2 ou 3 ans de vie. Sa femme est partagée entre la douleur de le perdre bientôt et la nécessité d'organiser la vie de ses enfants et la sienne propre après le décès programmé. Or, l'architecte guérit, mais ce n'est plus désormais comme le colonel Chabert qu'un vivant mort. Car sa femme, ayant appris à le placer en quelque sorte dans un compartiment latéral, est comme gênée par son retour. Sa survie la dérange. Elle continue à l'aimer, certes, mais d'un amour posthume que contredisent les dispositions pratiques qu'elle a prises. « Je n'existais plus pour elle », constate-t-il mélancoliquement. C'est un très beau texte, une très belle analyse des rapports complexes entre les inclinations de la vie sentimentale et les nécessités de la vie active. Balzac encore, je l'ai vu plusieurs fois cité dans les discours académiques de Jean Bernard. Recevant en 1986 Jean Amburger, il rappelait que, entre 1945 et 1951, 13 médecins avaient l'habitude de se réunir chaque mois dans un hôtel de Saint-Germain-des-Prés pour essayer de remédier à l'état désastreux de la médecine scientifique en France. Club des 13, mais plus chanceux qu'un autre du même nom. Je cite, « Les 13 de Balzac trouvèrent morte dans son couvent espagnol la duchesse de Langeais qu'il voulait délivrer. Les 13 de notre temps, plus heureux, sont parvenus à ranimer la recherche médicale française. » Recevant en 1989 Michel Debré et évoquant les pays de Loire de ses ancêtres, il glissait cette remarque. Devant nous, sur la levée du fleuve Royal, c'est juste l'endroit où, en mars 1814, Lord Granville, galopant depuis Tours, rejoignait la future femme de 30 ans. Amburger, un médecin, Debré, un homme d'État. Pour leur rendre hommage, Jean Bernard prenait ses références dans la littérature. Les classiques français l'ont toujours habité. C'est d'après un roman de Barbé d'Orville, Une histoire sans nom, en empruntant le nom de son héroïne, qu'il a baptisé cette curieuse maladie qui consiste à se détruire volontairement. Syndrome de l'asthénie de Ferjol. Ce grand spécialiste du sang a souligné comment certaines découvertes scientifiques ont été pressenties par des écrivains. Les tragiques grecs, dit-il, ont célébré le rôle du sang 500 ans avant les hématologues. Shakespeare, dans Coriolan, décrit la circulation du sang avant Harvey. Quant à Cervantes, il aurait identifié plusieurs affections sanguines à peine connues des médecins contemporains, anémie provoquée par des hémorragies, polyglobulie. Quoi d'étonnant à cette attention constante aux œuvres littéraires, quand on a été comme lui, dès l'âge de 14 ans, un familier de la librairie d'Adrienne Monnier aux Amis des livres. Dès 1921, élève de 3e A4 au lycée Louis-le-Grand, il venait rue de l'Odéon feuilleter des ouvrages de lui inconnus au titre mystérieux, Barnabous, sous les yeux d'Occident. Pendant 18 ans, il a fréquenté la librairie, observé l'étrange et fascinante propriétaire des lieux, reçu d'elle des conseils de lecture, elle qui était au centre d'une galaxie étincelante, où brillaient Léopold Fargue, Jules Romain, Valérie Larbeau, Paul Valéry. Gide, Claudel, Saint-John Perse, Aragon, Soupault, Breton venait aussi. Plus tard apparurent Jean Paulhan, Henri Michaud, André Chanson, Jean Prévost. De cette constellation étaient bannis les écrivains dits de la rive droite, Proust, Mauriac, Mauroy. La grande affaire, entre 1924 et 1929, fut la traduction d'Ulysse. Et Jean Bernard assista à toutes les étapes de l'aventure, depuis la rencontre d'Adrienne Monnier et de Joyce, jusqu'à la publication, aux Amis du Livre, de la traduction de son roman, encore interdit en Angleterre, et souvent mal accueilli en France, par André Mauroy, qui le tenait pour le modèle du roman manqué, par Claudel, qui renvoya son exemplaire en soulignant la diabolique absence de talent de son auteur. Adrienne Monnier avait collaboré elle-même à la traduction, et Jean-Bernard était là quand elle trouva cette somptueuse allitération « main palpant d'opulente », transposition exacte et sensuelle de la phrase de Joyce. Ce grand médecin n'était pas moins fier, paraît-il, d'avoir vécu la révolution littéraire d'entre les deux guerres que d'avoir assisté aux deux révolutions médicales, celle des antibiotiques et celle de la chimiothérapie. Mobilisé en 1939, il emporte le journal de Stendhal et un Shakespeare complet, en anglais. Si quelques mots ou vers lui échappent, il consulte la traduction de la Pléiade, remarquant vite que les tours les plus difficiles à comprendre sont aussi les plus impudiques. L'anglais qu'on lui avait appris était celui de la bonne éducation qu'il avait reçue. Pendant 6 mois, il plonge avec délectation dans les bas-fonds, la verdeur, la crudité du vrai Shakespeare. Il lui est arrivé, dit-il, de passer une nuit entière sur Richard III sans la moindre lassitude. Après la guerre, en 1946, il retourne aux Amis des Livres. La librairie mettait en vente le premier recueil de poèmes d'un inconnu. Paroles de Jacques Prévert. Les employés ont dressé la liste des premiers acheteurs. Jean-Bernard y figure, à côté de Gide, Michel Léris et Julien Gracq. Rue Saint-Jacques pour le lycée Louis-le-Grand. Rue de l'Odéon pour la librairie d'Adrienne Monnier. Rue d'Assas pour son propre domicile. On ne voit pas Jean-Bernard daignant fréquenter un autre quartier que celui qu'il appelait le quadrilatère de la civilisation et qu'il limitait, la rive gauche en entier étant beaucoup trop vaste pour son exigence sourcilleuse, au nord par la Seine, au sud par le boulevard du Montparnasse, à l'ouest par l'esplanade des Invalides, à l'est par la rue Mouffetard. Chaque forte personnalité a ainsi sa mythologie particulière. Jean-Bernard ignorait le Marais, ignorait Montmartre, ignorait la Nouvelle Athènes, ces autres places fortes de l'esprit parisien. Pour lui, il n'y avait de salut que dans les parages des jardins du Luxembourg. Ces jardins qu'il traversait à pied chaque jeudi pour se rendre à l'Académie et pour en revenir, refusant jusqu'en son extrême vieillesse, jusqu'à l'âge de presque 100 ans, de monter dans la voiture qu'on mettait à sa disposition. Il a consacré au Jardin du Luxembourg un fort joli album, prenant soin de noter comment beaucoup de grands hommes avaient habité dans les environs. Jean-Jacques Rousseau, dont il admire, dit-il, en une formule étonnante, la sincérité dans l'hypocrisie, rue Victor Cousin, Balzac rue de Tournon, Gide rue de Médicis, Faulkner rue Servandoni, Claude Bernard rue Monsieur le Prince. Et qui, ajoutait-il, n'était venu rêver sur les terrasses ou sous les marronniers, de Diderot à Chateaubriand, de Nerval à Rilke? Qui n'était venu apporter un manuscrit chez José Corti, au Mercure de France ou à la Revue des Deux Mondes? Quel poète n'avait retrouvé ses amis à la closerie des Lilas? On frémit de penser que si l'Académie française n'avait pas été comprise dans ce quadrilatère sacré, Jean-Bernard l'eût exclu de ce qu'il appelait la civilisation et n'aurait donc pas sollicité ses suffrages. Ici, je veux faire un autre aveu. Le simple écrivain que je suis ne peut qu'éprouver un complexe d'infériorité cuisant devant un grand savant. Être une sommité de la médecine n'empêchait pas Jean-Bernard d'être engagé à fond dans la littérature et dans l'art de s'exprimer par les mots. À 16 ans, au lycée Louis-le-Grand, il avait reçu le prix décerné au meilleur élève en français. Son professeur le complimenta avec cette légère réserve. On souhaiterait seulement un peu plus d'abondance. La concision est restée la marque du style de Jean Bernard. Je dis bien le style, car il aurait pu être écrivain. Ce conditionnel est même de trop. Écrivain, il l'était. Ce fut presque un médecin malgré lui. S'il a choisi la médecine, c'est parce que, disait-il, un médecin moyen rend plus de service qu'un écrivain médiocre. Moyen, il ne l'a été dans aucune des deux disciplines. L'économie de son langage est exemplaire. Fréquence du présent de narration, juxtaposition des phrases, simplicité de la syntaxe, rareté des subordonnées. Comme il était trop modeste pour se considérer comme un écrivain, Jean Bernard évitait de prendre la posture de l'écrivain. Ce qu'on appelle la littérature, il évitait d'en faire. Il se contentait de dire le nécessaire, sans fioriture. Mais le laconisme, c'est aussi un style. Et on ne relèverait rien dans sa prose qui ne soit parfaitement naturel. Pas de trouvailles, mais rien qui arrête, qui gêne ou qui choque. Il aurait pu faire sien plusieurs des préceptes exposés par Fénelon dans sa lettre sur les occupations de l'Académie française. Par exemple, toute circonlocution affaiblit le discours. Ou, on veut trop éblouir et surprendre. On veut avoir plus d'esprit que son lecteur et le lui faire sentir pour lui enlever son admiration, au lieu qu'il faudrait jamais n'en avoir plus que lui et lui en donner même sans paraître en avoir. Et enfin, on ignore l'art de s'arrêter tout court en deçà des ornements ambitieux. L'absence volontaire de tout effet est donc bien un art. En 1997, à 90 ans, Jean Bernard publie « Le jour où le temps s'est arrêté », un texte d'imagination qui relève de la science-fiction, du conte voltairien et de la parabole borgésienne, et que je tiens pour son chef-d'œuvre littéraire. Le 24 mai 2006, à 11h, 27 minutes, 34 secondes, le temps s'est arrêté. La littérature avait souvent célébré le temps qui fuit, le temps perdu, le temps retrouvé. Cette fois, il s'agit du temps bloqué. C'est l'acronie générale. Les aiguilles des horloges ne bougent plus. Les moutons cessent de brouter, les fleurs de pousser, les voitures de rouler. Horaires, rendez-vous, plans sur l'avenir, discussions sur la réduction du temps de travail, toute cette comptabilité est devenu absurde. Le président de la République en profite pour déclarer à la radio que s'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de durée. Je cite, « Ceux que vous avez élus restent en place. Je m'efforcerai, mes chers compatriotes, en exerçant de façon permanente mes fonctions, de rester digne de la confiance que vous m'avez témoignée. » Que va-t-on faire en attendant ? En attendant, que veut dire l'attente s'il n'y a plus de temps ? Savants, philosophes, poètes se concertent. Les voilà, Descartes, Leibniz, Einstein, Baudelaire, Proust, Poincaré, Saint-Augustin, Bergson, Aristote, Henri Michaux, tous ceux que le problème du temps a tourmenté et qui avouent à présent leur stupeur impuissante. Seul Paul Valéry, le préféré de Jean Bernard, apporte une réponse satisfaisante. Aux Champs-Élysées, il n'est pas de temps. Tout le temps n'est qu'un léger défaut dans le bloc éternel, comme tout l'univers n'est qu'une bulle dans la pureté générale de l'espace. Quelle douce et malicieuse façon de rappeler à l'homme sa petitesse et son orgueil. Être médecin, cela n'empêche donc pas d'être écrivain, et bon écrivain, mais le simple écrivain. Il ignore tout de la médecine. Je me sens incompétent, non seulement pour parler en termes convenables de l'œuvre de Jean Bernard, mais même pour comprendre de quoi il s'agit. Les rapports de l'écriture et de la médecine mériteraient une longue étude. Très peu de célébrités ont réuni les deux capacités. Claude Bernard commença, encore apprenti pharmacien, par écrire une tragédie en cinq actes, Arthur de Bretagne. Ce fut un échec complet. Tant mieux, puisqu'il renonça à la carrière dramatique pour devenir le fondateur de la physiologie. Certains médecins, pour se consacrer à leur œuvre littéraire, ont abandonné la médecine, et presque jusqu'au souvenir de la médecine. comme Georges Duhamel. D'autres ont réduit leur activité professionnelle, mais gardé le contact avec le milieu médical, où ils ont puisé l'inspiration de certaines des meilleures de leurs œuvres, comme Anton Tchekhov ou Mikhaïl Bulgakov. D'autres, enfin, ont mené de front les deux carrières, comme Jean Delay ou Jean Bernard. Un des textes qui figure dans le syndrome du colonel Chabert s'intitule « Le romancier et les registres ». L'auteur suggère à un romancier éventuel d'utiliser une des méthodes qui ont donné de bons résultats dans la médecine récente et qui consiste à établir des dossiers ou registres sur les conditions d'apparition d'une maladie. Par exemple, pour en savoir plus long sur le cancer du sein des femmes, il faudrait soumettre à une enquête parallèle portant sur les lieux de vie, les conditions de travail, les antécédents familiaux, les soucis sentimentaux, etc., un certain nombre de femmes atteintes de cette maladie et un certain nombre de femmes indemnes. Ainsi parviendrait-on à mieux connaître ce cancer, peut-être à le juguler. La médecine du XXIe siècle, affirme Jean Bernard, sera en grande partie une médecine de prédiction. Plus l'investigation des divers facteurs pathogènes sera exhaustive, plus on arrivera à limiter le danger. Si chaque homme et chaque femme faisaient l'objet d'un registre complet, on pourrait savoir quelle menace pèse sur sa santé à plus ou moins longue échéance. Mais le souci éthique étant primordial chez Jean Bernard, il ajoute que cette documentation devrait rester secrète. Je cite « On ne doit pas sous-estimer l'usage qu'un nouvel Hitler pourrait faire de ces registres avec la liquidation de telle ou telle catégorie de personnes. » Voilà un langage qu'il est bon de rappeler. Aujourd'hui, qu'on entend des propos hâtifs sur l'origine génétique de certaines formes de déviance ou de délinquance, affirmations redoutables qui font craindre qu'on veuille un jour sélectionner, pour ainsi dire, les futurs criminels en vue de leur élimination préventive. Et le romancier dans tout cela ? Eh bien, il pourrait, en toute innocuité, lui, puiser au hasard dans ses registres, en tirer ici un personnage, là un autre, les mettre en contact par l'imagination et les associer dans une aventure commune. Il pourrait surtout, à mon avis, choisir des sujets qui valent la peine d'être romancés, choisir des sujets qui l'engagent. Certes, après la guerre, on a abusé de la notion d'engagement. L'engagement, pourtant, devrait rester une priorité pour les écrivains. Qu'on se souvienne que le meilleur Hugo est peut-être celui du Dernier jour d'un condamné et de Claude Gueux. Le meilleur Dickens, celui qui a dénoncé le scandale de l'exploitation des enfants. Le meilleur Tolstoï, celui qui s'est élevé contre les horreurs de la guerre, et en particulier dans son merveilleux récit Hadji Mourad, de la guerre déjà sanglante en 1851 de Tchétchénie. Le meilleur Gide, celui qui a pris la défense de l'homosexualité, critiqué les abus du colonialisme, percé à jour la posture stalinienne. Il me semble que la seule façon pour l'écrivain de ne pas souffrir d'un complexe d'infériorité devant le médecin, c'est de se battre pour une cause, contre une injustice ou contre un préjugé. Alors, au lieu d'avoir l'impression de n'être qu'un vendeur de rêves, aussi charmant qu'inutile, il se sentira responsable de ce qu'il écrit, comme le médecin, lequel est sans cesse mis à l'épreuve par le résultat de ses interventions et peut-être sanctionné pour une faute. Le médecin est toujours engagé. Et c'est sans doute parce que l'écrivain s'accuse d'avoir si peu de prise sur le réel qu'il se venge des médecins en les présentant si souvent sous un jour malveillant, voire caricatural. De Plaute à Molière, de Dickens à Flaubert, de Proust à Jules Romain, les exemples ne manquent pas. Devant les grandes douleurs, devant les catastrophes humanitaires, l'écrivain est impuissant. Que peut la littérature, demandait Sartre, face à un enfant qui meurt ? Jean Bernard, précisément, a abordé de front cette question de la mort des enfants. C'est en voyant mourir de leucémie des enfants, c'est à cause de ce spectacle intolérable que sa vocation s'est déterminée, ses recherches spécialisées, son esprit aiguisé jusqu'aux découvertes décisives qui l'ont immortalisé. Découvertes, selon d'éminents professeurs qui ont travaillé avec lui, encore une fois, je ne me permettrai pas de porter moi-même un jugement et je leur demande de m'excuser si j'ai mal compris leurs propos, Jean-Bernard a moins découvert qu'il n'a expérimenté. Mais son obstination a suffi à modifier radicalement la pratique médicale et à obtenir des résultats spectaculaires. En 1945, on ne savait pas soigner la leucémie. Bien pis, l'hôpital refusait les enfants leucémiques comme étant incurables. L'hématologie, une science sans avenir, il fallait de l'héroïsme pour adopter une discipline qui ne comptait que des insuccès. Jean-Bernard fut ce héros. Le 2 octobre 1947, avec son collaborateur Marcel Bessis, il décida de changer totalement le sang d'un enfant leucémique. Ce ne fut qu'une rémission sans doute, mais le début de l'espoir. Puis il administra des corticoïdes et, peu à peu, aux rémissions succédèrent de vraies guérisons. Une autre des vertus de Jean-Bernard fut de créer dans l'hôpital Saint-Louis un centre de recherche, ce qui était une nouveauté en France. Jean-Bernard entendait associer étroitement les travaux de recherche et le soin quotidien des patients. Contrairement aux patrons d'avant-guerre, il faisait régulièrement la tournée de ses petits malades, recevait leurs parents, et plus tard, il se souvenait de chaque cas dont il s'était occupé. Il faut aussi souligner qu'il accordait à tous ses patients, quelle que fût leur position sur l'échelle sociale, une attention égale, traitant avec les mêmes égards, servant avec le même scrupule les 100 grades anonymes et les grands de ce monde. Loué, n'étant pas flagorné, il faut bien que je mentionne un épisode moins brillant de sa carrière. Il présidait le Centre de transfusion sanguine et le Comité national d'éthique quand apparut en France l'épidémie du sida. On ne l'accuse d'aucune faute active. On lui reproche seulement d'avoir couvert de son autorité le docteur Garetta sans prendre la mesure du danger. Même s'il en fut ainsi, n'accablons pas un homme qui savait qu'en choisissant la médecine, il courait le risque de tomber dans l'erreur. Seigneur, ayez pitié de nous qui cherchons. Donnez-nous le courage nécessaire pour résister aux erreurs, aux injustices et aux discordes. Donnez-nous la force nécessaire pour tout reprendre et recommencer quand nous savons que nous nous sommes trompés. Grand patron, éminent médecin, reconnu et acclamé pour ses succès, Jean-Bernard restait au fond de lui-même un douteur, un inquiet, prêt à se remettre en question pour un seul échec thérapeutique. L'enfant est mort et nous sommes seuls dans notre ignorance, a-t-il écrit dans un autre de ses poèmes. Jean-Bernard était-il donc un pessimiste? Absolument pas. Et cette question du pessimisme, ce choix entre accepter ou refuser la fatalité du mal, concerne aussi le romancier. Jean-Bernard ne se laissait pas décourager. Et c'est cette constance dans le but poursuivi, cet espoir dans la possibilité de trouver le remède, cette foi que le scandale de la mort des enfants n'est pas irréversible, qui le distingue radicalement de beaucoup d'écrivains modernes. Ceux-ci trouvent plus avantageux, devant l'absurdité du monde, de prôner la splendeur de l'échec, de célébrer la beauté du rien, de clamer la gloire des vaincus. L'écrivain optimiste passe pour un demi-imbécile, un naïf, bon pour les dictées et les manuels scolaires, surtout au siècle de Kafka, de Céline, un médecin pourtant. La littérature n'a pas toujours été aussi démissionnaire. Autant de Defoe, de Balzac, de Stendhal, on croyait encore à la possibilité de réaliser quelque chose, d'accomplir une existence. Il faut aujourd'hui professer que rien ne vaut la peine d'être vécu, qu'il est vain d'entreprendre quoi que ce soit. Un écrivain n'est plus crédible s'il ne croit pas à l'inutilité de tout, s'il ose écrire une histoire qui se termine bien. Pourquoi un Alexandre Dumas, un Kipling, un Maxime Gorki sont-ils tombés en discrédit? parce qu'il nous présente des personnages qui se fixent un but, luttent pour l'atteindre et sont finalement récompensés de leurs efforts. Supposons que Kafka eût réécrit l'île au trésor. Soyons sûrs que le trésor n'aurait jamais été trouvé. La supériorité du médecin est de surmonter le facile vertige du néant, de croire opiniâtrement à la réversibilité du destin. La supériorité de Jean Bernard est éclatante en face de tous les prophètes du désastre. Il a guéri, il a sauvé des milliers de vies. Refus de la fatalité. Dans tous les domaines, y compris celui de la vie politique. En 1940, il a été un des 500 premiers résistants. Pour lui, a-t-il dit, ce n'était même pas un choix, mais une obligation évidente. Il entre dès le 20 septembre dans le réseau de René Parodi, rédige et distribue des tracts. Au début de l'année 1941, ce réseau est démantelé, René Parodi arrêté, puis exécuté en prison. Jean Bernard se cache en province, passe ensuite en zone sud, où il entre dans un réseau Action. En automne 1942, il se trouve en Provence, découvre Marseille et le monde du Vieux-Port, dont il se souviendra pour son éloge de Pagnol, auquel il succéda ici même, guette dans l'arrière-pays les parachutages britanniques au cours de longues nuits glacées, le plus souvent inutiles, car l'avion, pour une raison ou une autre, n'est pas au rendez-vous. Je cite, « Que d'heures, que de nuits passées ainsi dans les fossés de Provence. Au petit matin, la rosée est humide, le froid très vif. Ces attentes répétées m'ont appris quelque chose qui m'a servi de leçon tout au long de mon existence. Il faut aller 10 fois sur le terrain de parachutage avant la réussite. Il en est de même pour la recherche en biologie. On fait 10, 20, 50 tentatives avant d'arriver un jour, par bonheur, à un résultat. Une seule réussite justifie tout le reste. Les longues nuits d'attente à grelotter n'ont pas été vaines. Quelle joie pour nous lorsque nous observons les parachutes descendre dans la nuit éclairés par la lune. D'autrefois, point d'avion, point de largage. Nous reprenions tristement nos bicyclettes au petit matin et roulions tout transis entre les vignes. Une autre mission pour les membres du réseau est de prendre une barque et de ramer en haute mer jusqu'à la felouque anglaise venue de Gibraltar, débarquer des hommes et des femmes en provenance d'Angleterre ou embarquer des Français pour Londres, tel le comédien Claude Dauphin. Transporter clandestinement des postes émetteurs de radio cachés dans le double fond des camions fait aussi partie des tâches. Jean Bernard est marié, il a 2 enfants. Il sait qu'il risque à tout moment sa vie, mais ne remet jamais en doute son engagement, qui est en fait un des combattants les plus sûrs, les plus probes de cette armée des ombres évoquée dans le beau roman de Joseph Kessel. En avril 1943, il est à Paris, où il a repris ses consultations. La Gestapo vient l'arrêter à son domicile, 86 rue d'Assas. Elle a d'autres preuves contre lui qu'une ordonnance délivrée au fils de Robert Debray, grand résistant. Il n'en passe pas moins plusieurs mois en prison, dans la cellule 359 de Fresnes, faite pour une seule personne, mais où sont entassés 5 autres détenus, un commandant belge, un vieil horloger luxembourgeois, un égoutier voleur, un mécanicien dentiste de Besançon, un danseur de l'opéra, qui essaye désespérément de faire ses exercices d'assouplissement dans cet espace exigu. La promiscuité, la chaleur, les démangeaisons dues aux punaises, aux puces et aux poux, la crainte des interrogatoires, l'appréhension de la torture font de ce séjour un enfer. Les prisonniers n'ont le droit d'avoir ni papier ni crayon. Ce qui va sauver Jean Bernard, c'est la poésie. Dès le premier jour, il se récite le vers de Nerval qui semble avoir été écrit pour la circonstance. Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Puis les centaines de vers qu'il a appris au lycée défilent dans sa tête. Il connaît par cœur de longues tirades de Racine, de Corneille, des poèmes de Hugo, de Lamartine. Occasion pour lui de regretter, quand il a fait ce récit en 2003, que les élèves d'aujourd'hui n'exercent plus leur mémoire. En cas de maladie grave ou de détention, se réciter des vers non seulement procure un réconfort inestimable, mais permet de garder l'unité de son esprit. Jean Bernard ne se contente pas des poèmes des autres, il en compose lui-même. Comme il n'a rien pour les écrire, il les apprend par cœur, ainsi que le faisait la grande Anna Akhmatova dans sa chambre surveillée de Leningrad. C'est peut-être un quatrain ironique, comme celui qu'il concocte en se grattant furieusement. Canicule en cellule, captif en pamoison, prurite démangeaison, l'invertébré pullule. Le plus souvent, c'est une complainte, écho de Rudebeuf de Villon. Je suis sans crayon et sans plume, et grave sur un plâtre usé ces versis que j'ai composés, ces pauvres vers sans clair de lune. Je suis sans lampe ni lanterne. Lire en mon lit est superflu, livre n'ayant et lit non plus. Point ne me faut lampe ou lanterne. Sans clair de lune, je relève cette formule qui a ici, me semble-t-il, un double sens. Jean Bernard compose ses vers dans l'obscurité d'une cellule. Sans clair de lune signifie d'abord sans lumière, dans le dénuement et l'angoisse de la captivité. Mais depuis tout temps, le clair de lune est lié à l'illusion romantique des rêves faciles. Sans clair de lune veut dire aussi en regardant les choses en face, telles qu'elles sont, et non sous une clarté fallacieuse. Leçon de réalisme encore, de courage, de ce courage qui va pousser Jean Bernard à reprendre, à peine libéré, ses activités de résistant. Cette fois, il entre dans un réseau renseignement. De mai à septembre 1944, il a pris des notes qui constituent un précieux journal de la libération de Paris. Double vie de médecin et de conspirateur, qu'il raconte avec humour, sans jamais se vanter ni claironner. Il parcourt la ville à bicyclette, croise d'autres cyclistes clandestins, Robert Debray, Pasteur Valery Radeau. Sa bicyclette, à l'occasion d'une visite médicale ou d'une mission secrète, il l'a montée sur son dos, parfois jusqu'au sixième étage. Car, en ce temps de pénurie vélocipédique, une bécane abandonnée sans surveillance était un trésor perdu. Jean Bernard reçoit un jour dans son cabinet un certain M. Martin, en qui il reconnaît aussitôt Alexandre Parodi, frère de René, assassiné par la Gestapo. Alexandre est devenu un des chefs de la résistance. Jean Bernard est terrifié de constater qu'il transporte dans sa serviette la liste complète des futurs commissaires de la République, préfets et sous-préfets, avec les noms en clair. Travailler dans une imprimerie clandestine ne l'empêche pas de savourer l'arrivée du printemps. Le 29 mai 1944, il a cette phrase magnifique « Les feuillages du Luxembourg ont une richesse et une plénitude qui font penser à la partie centrale d'une symphonie. » Le 30 juillet, il monte dans un camion pour se rendre à Château-Thierry. À quatre reprises, une alerte aérienne oblige les passagers à se jeter dans le fossé. Que va-t-il faire en province ? Une conférence sur Proust, dont l'œuvre ne rentre pourtant pas dans le quadrilatère de la civilisation. Le 19 août, en attendant l'appel du service de santé insurrectionnel, il lit l'anthologie de la poésie française de Ramuse. Le 25 août, il ramasse et met dans sa poche, rue de Rivoli, un fragment de grille du Jardin des Tuileries. Ce morceau de bronze restera sous son bureau, comme un souvenir de la fusillade qui avait éclaté sur le passage du général de Gaulle quand celui-ci était descendu à pied de l'Arc de Triomphe à Notre-Dame. Les balles, dit Jean Bernard, avaient alors sifflé près de moi. Résister, telle aurait pu être sa devise, d'homme, de citoyen, de savant. Et vous comprenez maintenant pourquoi sa figure et son œuvre me touchent tant. Moi, dans la piété filiale, a dû faire le deuil de ce sujet de fierté. Dans son livre le plus accessible au public ignare, Grandeur et tentation de la médecine, Jean Bernard expose comment, jusqu'à la dernière guerre à peu près, les médecins, par impuissance, par scepticisme, par découragement, ne résistaient guère à la maladie. Tout au plus essayaient-ils de l'enchanter par des incantations qui donnaient plus de la magie que de la science. Et non seulement les charlatans, mais les médecins les plus sérieux, tels ce Magin Hadi, physiologiste et clinicien, qui, vers 1840, à ses internes soucieux de trouver la thérapie appropriée, donnait ce conseil des abusés. On voit bien que vous n'avez jamais essayé de ne rien faire. Faire, c'était le propre des médecins de Molière, avec ce résultat que les patients ne mouraient pas de leur maladie, mais de leur remède. Les cures thermales étaient et restent le carrefour de la superstition et de l'efficacité. Madame de Sévigné avait foi dans l'utilité de ses cures, mais les plaisirs mondains qu'on goûte dans les villes d'eau orientaient peut-être ses convictions. Voltaire, lui, ne s'en laissait pas compter. « On peut lire, dit-il, les pères de l'Église, comme on prend les eaux, sans y croire. » Quand on ne savait pas soigner l'hémophilie, toutes les escroqueries à la Raspoutine étaient possibles. Quand on ne savait pas soigner la tuberculose, on envoyait les phtisiques dans des sanatoriums. Et Thomas Mann ne se trompait pas sur le sérieux du traitement en intitulant son roman « La montagne magique ». Aujourd'hui, après que la médecine est entrée en résistance et a remporté de nombreuses victoires, certaines impostures historiques, comme celle qui a entraîné la chute de l'Empire russe, ne seraient plus possibles. Mais aussi certaines œuvres littéraires ou musicales seraient frappées d'obsolescence. Et nul ne peut échapper à quelque égoïste nostalgie en se disant que la victoire sur la tuberculose a supprimé la possibilité non seulement de romans comme celui de Thomas Mann, mais d'œuvres non moins immortelles. La Dame aux camélias de Dumas-Fils, la Bohème de Puccini, la Traviata de Verdi. Plus jamais de Mimi venant mourir dans la mansarde de Rodolfo. Plus jamais de Violetta effeuillant dans son agonie les roses du passé. Chaque progrès de la science retire à la création artistique des sujets, des thèmes, des personnages. Chaque conquête de la médecine restreint le champ de la culture. Je suppose que Jean Bernard, plus que tout autre, devait être sensible à ce paradoxe, qu'il en a souffert à sa manière, tout en restant sûr de son choix et déterminé à combattre dans le camp de la vérité contre le camp de la magie. Il ne faudrait pas croire pourtant que sur ce camp de la vérité ne flottent pas les étendards de la poésie, les bannières du romanesque. Un quatrain de facture hermétique, intitulé « Coupe », évoque avec brio ce qu'est la recherche médicale. Trompeuses épaisseurs, présences ignorées, astres enveloppés que découvre le fer, vacuoles où surgit la vérité mirée, secrets cherchés longtemps et brusquement offerts. Le livre d'initiation que j'ai cité commence par une longue et passionnante séquence intitulée « Hématologie géographique ». On y apprend une vérité longtemps méconnue, même des savants, à savoir que l'anatomie, la physiologie, la pathologie du sang dépendent pour une large part des peuples et des races, du sol, de l'air, des climats, des coutumes alimentaires, des infections, des parasitoses particulières à certaines régions. Les lieux où un homme vit et parfois les lieux où ont vécu ses ancêtres, règlent en partie l'état du sang. Par exemple, savait-on qu'une anémie grave, due à la destruction, destruction brutale des globules rouges, observée chez certains Italiens, Sardes et Siciliens surtout, était due à la soupe de fèves ou à la simple traversée au printemps d'un champ de fèves en fleurs. La fève que notre imagination idéalise comme une composante de la vie rustique, s'est révélé être un agent destructeur. Si vous visitez à Rome la galerie de tableaux privés du Palais Colonna, vous serez frappé par une toile d'Annibale Carracci, le mangeur de fèves, un paysan en blouse grossière et chapeau de paille entaillé, attablé devant une assiette de soupe. Le premier spécimen peut-être, 1583, de peinture réaliste, en cette fin du XVIe siècle, où l'on ne peignait encore que des tableaux religieux ou d'histoire avec des personnages idéalisés. Je ne sais si Jean Bernard connaissait ce tableau, mais je ne puis, pour ma part, continuer à le regarder du seul point de vue esthétique, sans me dire que la nourriture de cet homme scellait en quelque sorte le destin de sa classe. La nouvelle médecine, dont Jean Bernard a été un des pionniers, rejoint ainsi les enseignements de la nouvelle histoire, plus attentive à la petite musique de la vie quotidienne qu'au fracas des batailles. Hématologie géographique. Dans cette description des troubles sanguins, selon les pays, les climats, les mœurs, se profile un véritable roman du sang, avec un vocabulaire particulier, et qui, pour être rigoureusement scientifique, n'en est pas moins entouré d'une aura de mystère. Incite ce mot à la sonorité étrange, thalassémie, anémie de la mer, anémie des influences marines. C'est une maladie qui se développe surtout en Méditerranée centrale et orientale, avec une prédominance en Sicile et en Sardaigne, mais qu'on a identifié seulement aux États-Unis chez des enfants de souche italienne. C'est après avoir émigré que la thalassémie a été reconnue. La première description en a été donnée par des médecins américains. Plus tard seulement, sur le rivage même où elle était née, les médecins méditerranéens, quelque peu maris, dit Jean Bernard, de n'avoir pas été les premiers à la découvrir, ont pris acte de son existence. On les comprend, ces médecins italiens, si charmés par la beauté de leur rivage qu'ils ne pouvaient en soupçonner la scélératesse. La mer toujours recommencée, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, la mer chérie, toujours chérie par l'homme libre, selon un autre poète, c'est aussi la thalassa perfide, responsable du teint pâle de milliers d'enfants, de leurs traits déformés, de leur abdomen gonflé par une rate volumineuse. Encore un domaine où la science médicale met en fuite les prétentions de la poésie et de la chanson. Plus qu'un technicien de la médecine, Jean Bernard était un humaniste. Quand il parle des bévues de ses devanciers, des fausses hypothèses émises par ses confrères, des méprises qui jalonnent l'histoire de la médecine, il ne juge personne, il ne condamne personne. Il se contente, avec un humour teinté de bienveillance, de suggérer que, ici, on aurait pu procéder à des vérifications plus sérieuses, là, ne pas affirmer aussi catégoriquement une opinion. Même quand on le sent plus indigné, il use de l'ironie plus que de la satire. Ainsi, au sujet de l'avortement et de ceux qui s'y opposent, mais s'accommode fort bien de l'effroyable mortalité infantile dans les pays pauvres. Dans « L'homme changé par l'homme », 1976, il écrit avec une mesure qui ne donne que plus de force à sa colère. Les mêmes moralistes protègent comme diamant, comme prunelle, le fœtus dans l'utérus maternel, mais ne témoignent pas la même sollicitude à l'enfant après sa naissance. Ils acceptent d'un cœur apparemment léger, en tout cas sans protester, les souffrances et la mort de tous ces enfants du tiers-monde, victimes de l'inégale démographie, de l'inégale répartition des ressources alimentaires. Cette attention généreuse au prochain, ce souci d'information planétaire, ce rejet de toute doctrine préconçue caractérise la démarche de Jean Bernard. Il se préoccupe beaucoup plus de sauver les malades que d'établir sa propre gloire. Et pour sauver les malades, aucune précaution, pense-t-il, aucune remise en question n'est superflue. Il y a du d'Alembert et de l'esprit des encyclopédistes dans sa manière de mener de front l'œuvre du savant et la réflexion du philosophe. Mais je crois déceler aussi, dans les scrupules de sa conscience, dans les tâtonnements de sa bonté, dans les élans de sa tolérance, comme un ton franciscain. Surtout si j'oppose à saint François d'Assise, à son humilité devant la souffrance et l'erreur humaine, l'assurance péremptoire des inquisiteurs espagnols. Ici s'opposent deux tempéraments, l'italien et l'hispanique. La mansuétude italienne repose du sectarisme espagnol, comme la douceur des collines ombriennes tout en courbe légère, soulage de l'aridité orgueilleuse du plateau castillan. Pour ma part, malgré mon ascendance mexicaine et donc espagnole, j'avoue que mon cœur penche du côté de l'Italie, ma patrie d'élection. On y a rarement pourchassé bien sévèrement les hérétiques. Hérétiques de la foi, hérétiques du sexe. Oscar Wilde, au lieu de chercher querelle au marquis de Queensberry, aurait mieux fait de s'installer à Rome. Le pays de Casanova s'est toujours montré indulgent pour les mœurs flétries par les anathèmes du Lévitique, et la chose est d'autant plus remarquable que les dites mœurs restent condamnées aujourd'hui par le Vatican. En Italie, on se sent toujours bienvenu, toujours aimé, si peu conforme qu'on soit à l'opinion dominante. Gageons que saint François aurait absous Pasolini. Nous savons en tout cas comment il traitait le loup, le terrible loup de Gubbio. Il lui parlait si doucement, si affectueusement, qu'il réussissait à prouver à ses disciples et aux habitants épouvantés d'Assise, de Pérouse, qu'il n'était pas un méchant loup, mais une variété comme une autre de l'espèce humaine, de l'espèce animale, digne d'être respectée et aimée. Jean-Bernard, j'ose le croire, ne pensait pas qu'il eût un seul comportement légitime dans la vie. De même qu'il savait qu'il n'y a pas d'acquis définitif en médecine. Lorsqu'une maladie est vaincue, une autre surgit. Certaines manipulations scientifiques ont des effets pernicieux, pires que le mal à soigner. Une thérapie est souvent trop coûteuse pour que la société puisse en supporter les frais. Jamais de chant de victoire chez lui. Il n'embouche pas le clairon, il murmure, invitant sans relâche à examiner un problème sous toutes ses faces avant de se prononcer. De prendre en compte qu'un seul élément est toujours une erreur et une faute. Je cite Sartre, étudiant Flaubert, analyse avec une admirable rigueur l'influence, les influences exercées sur l'idiot de la famille par ses parents, son frère. Mais ne fait aucune allusion, tout au moins jusqu'à présent, mais 3000 pages déjà, aux structures innées de Gustave. Tout se passe comme si ses caractères génétiques étaient indifférents, comme s'il n'avait en rien contrôlé ou au moins orienté, infléchi le développement de Gustave. Admirez le ton apaisé, généreux de cette critique. Même Sartre et ses jugements péremptoires ont droit à l'indulgence. C'est cela la touche, Jean-Bernard, la conscience qu'il ne faut aborder qu'avec la plus extrême prudence tout ce qui est du domaine de l'humain. Sa méthode, il me semble, et comme il l'a suggéré lui-même, pourrait rendre de grands services à l'art du roman. Trop de romanciers ne présentent leurs personnages que d'un seul côté. Ceux-ci sont comme programmés à l'avance et ne sont capables de marcher que dans une seule direction. Arrêtons-nous un peu sur l'histoire de ce petit garçon, résumé en une page par Jean-Bernard, point de départ d'un possible projet romanesque. L'enfant, très retardé, souffre de troubles graves du caractère et du comportement. Il se montre hostile à son entourage, s'abandonne à de violentes colères, parfois dangereuses. Le pédiatre, éminent et traditionnel, qui l'accueille à l'hôpital, examine le garçon, fait une brillante leçon sur les retards psychiques de l'enfance, mais ne lui apporte aucun secours. On le confie alors à un psychanalyste, lequel, pendant 2 ans, écoute les récits des parents de l'enfant, reçus séparément chaque semaine. Les parents s'aimaient tendrement, du moins le croyait-il. En fait, il se trompait. Au bout de ces 2 ans, les voici au bord de la rupture. Pendant ce temps, l'état de leur fils ne fait qu'empirer. Une équipe de sociologues prend alors le relais. Ils étudient l'évolution de la maladie par rapport au milieu, à la famille, à l'école, en pure perte pour ce qui est de la santé de l'enfant. Vient enfin le diagnostic exact grâce au progrès de l'hématologie. L'enfant est né de parents dont les groupes sanguins rhésus étaient incompatibles. Les anticorps maternels ont attaqué à la fin de la vie intra-utérine les globules rouges de l'enfant. Certains pigments formés par la destruction des globules rouges se sont fixés sur les cellules du cerveau de l'enfant. Ce sont eux les responsables des troubles psychiques. Il n'y a d'ailleurs pas de quoi pavoiser, conclut Jean-Bernard. Ce diagnostic ne change rien au destin de cet enfant perdu, mais il permettra de sauver ses frères à venir, puisque la prévention de ces redoutables accidents est désormais possible. Il permet aussi un classement correct de troubles psychiques longtemps restés mystérieux. L'enfant perdu, ce pourrait être le titre, le beau titre de tant de romans terribles. La science, ici, une fois de plus, fait reculer le mystère, mais sans ôter à l'histoire de ce petit garçon l'épaisseur dramatique d'un vrai personnage. Étendons cette analyse à un des champs préférés par les romanciers et les dramaturges, le domaine de la violence et du crime. Que les assassins soient les produits de leur milieu, les victimes de leur famille, on le savait déjà. Ils sont aussi peut-être, Jean Bernard nous oblige du moins à nous le demander, les blessés de la guerre menée par les groupes sanguins de leurs parents. Dostoïevski, qui était déjà psychanalyste et sociologue, aurait dû, pour être un romancier parfait, être aussi médecin. Merci.
Monsieur, vous venez de rendre un superbe hommage à notre confrère Jean Bernard et nous vous en sommes reconnaissants. C'est magistralement que vous nous l'avez rappelé. Jean Bernard n'était pas seulement un grand homme de science, il était aussi un homme de cœur et un bel écrivain. Vous nous l'avez démontré en homme de cœur et j'oserais dire en romancier, ce qui n'y aurait pas déplu. Aussi n'aurez-vous pas d'objection, je pense, à ce que, romancier moi-même, je vous raconte une histoire sur un ton peut-être en apparence moins grave que celui très émouvant qui a été le vôtre. Si objection, d'ailleurs, vous aviez, la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui vous obligerait, je crois, à la garder de part vers vous. Une histoire, donc, presque un roman. Chapitre 1er, un petit garçon. Il était une fois un petit garçon né en 1929 d'un père mexicain et d'une mère auvergnate et janséniste. C'est tout dire. Cette mère était austère et grave. Sans le savoir vraiment, elle se réclamait de Pascal. Le père, Ramon, lui ressemblait bien peu. Il était, lui, un playboy, dépensier et mondain, coureur de femmes et beau parleur. Vous avez vous-même courageusement parlé de lui. Si j'enchaîne sur vos propos, c'est parce que je sais ce qu'a représenté et représente encore pour vous ce père qui vous ressemble pourtant si peu. Vous me l'avez dit un jour, et vous nous l'avez répété tout à l'heure, l'une des raisons, la raison principale peut-être pour laquelle vous avez voulu entrer dans notre compagnie, c'était pour que son nom soit prononcé sous cette coupole. Je le prononcerai donc après vous. Ramon Fernandez était un grand écrivain de gauche dont le très bien pensant Dictionnaire universel des littératures, publié en 1994 aux Presses universitaires de France, prend bien soin pourtant d'oublier le nom. Vous y figurez vous-même entre un Fernandez brésilien et un José Joaquin Fernandez de Lisa qui, né en 1776 et bien mexicain, lui, était, selon le dictionnaire, la parfaite incarnation de la hardiesse et des limites du siècle de lumière américain. Rien non plus sur Ramon Fernandez dans le dictionnaire dit Lafon Bompiani des auteurs. Plus généreux en Fernandez, un autre dictionnaire des littératures, également publié aux Presses universitaires de France, mais en 1968, relève 27 Fernandez. De tous les pays en somme, mais Ramon, votre père, n'y figure pas davantage. Le silence, donc, qui plane sur lui. Et pourtant, dans le sillage d'André Gide et de la NRF de la grande époque, Ramón Fernández était, vous nous l'assurez, et nous le savons, un véritable écrivain lui aussi. Romancier, il avait obtenu en 1932 le prix Femina pour un roman, Le Paris, naturellement publié chez Gallimard. Surtout, essayiste, vous nous l'avez rappelé, il devait encore écrire sur Proust et sur Gide, sur Molière, comme il avait écrit sur Barrès. Mais dès 1936, comme quelques autres qu'on retrouvera en 1945 sur les routes de l'exil ou qu'on ne retrouvera plus, l'écrivain de gauche s'était posé les questions qu'il ne fallait pas et avait adhéré en 1937 au Parti populaire français, le PPF de Jacques Doriot, pour en animer plus tard le Cercle populaire français, CPF, le bras armé pour la culture du même Doriot, mort en 1945, mitraillé dans sa voiture par un avion britannique. Et tout est là. Ici commence sa tragédie et peut-être votre déchirure. Courageusement, je le répète, vous nous avez tout dit, Goebbels et le voyage infamant à Weimar. Il y a eu aussi ces articles dans La Gerbe d'Alphonse de Chateaubriand et dans la NRF de Drieu-La Rochelle. Tant d'autres l'ont fait pourtant qu'on n'a pas pour autant oublié. Mais il a peut-être eu en somme la chance, si l'on ose dire, de mourir d'une crise cardiaque en août 1944. Juste à temps. Paris était encore occupé. Lors de sa messe d'enterrement célébrée à Saint-Germain-des-Prés, toute la collaboration tenant le haut du pavé trônait dans le cœur. Mais ses amis les plus anciens, les vrais, François Mauriac, Jean Paulhan étaient là aussi, assis en retrait dans les bas-côtés de l'église. Depuis, on a préféré taire son nom. Il n'était ni Brasillac, ni Drieu, ni même l'amiral Schack. Il était un écrivain qu'on avait oublié dans les tiroirs de l'histoire, mort avant que d'autres se soient trop intéressés à lui. Pourtant, ce père absent, si présent, vous le portez en vous depuis votre première en France. Il était beau, désinvolte, il buvait comme un héros de roman, et pour parrain, lors de votre baptême, il vous a donné François Mauriac. C'est tout de même un bel héritage. Son œuvre, très vite, vous l'avez arpentée, et ce sont ses livres et surtout sa vie qui vous ont donné le besoin d'écrire vous-même, répondre par des livres au silence des livres. Fils, dites-vous vous-même, d'une Auvergnate née sous le signe de Pascal et d'un Mexicain, vous le dites, devenu collabo, vous ne l'avez pourtant guère connu, ce père. Vos parents ont divorcé autour de 1935, un divorce pur et dur, comme on les faisait alors. Comme on dit oui devant monsieur le maire, on dit oui au juge qui vous demande si c'est bien fini, et dès lors c'est bien fini, oui, non, on ne se reverra plus. Votre mère épousera en 1946, en seconde noce, cette Angelo Tasca qui, avec Gramsci et Togliatti, fonda le Parti communiste italien, mais qui lui aussi rallia l'autre bord, puis écrivit une histoire du fascisme et s'exila en France. Tant de fils qui s'entrecroisent. De même que la fille d'Angelo Tasca s'appellera Catherine et sera ministre en France de la Culture, de même Ramón, remarié avec une jolie Betty, deviendra l'ami d'une jeune femme un jour célèbre. Ramón logera avec Betty rue Saint-Benoît dans la maison dont la jeune femme, bientôt célèbre, occupe déjà le troisième étage. Ce troisième étage était celui de la résistance, on retrouvait entre résistants ou presque. Au quatrième étage, on était plutôt collaborateurs et tout ce monde-là faisait bon ménage, partageait même une femme de ménage, jusqu'à ce que la jeune femme, bientôt célèbre, prévienne son voisin du quatrième qu'effectivement entrée maintenant dans la résistance, elle ne pourrait plus le voir. La jeune femme, enfin devenue Marguerite Duras, écrira de lui « Il fut roi alors dans le silence et dans la discrétion ». À sa manière, le 5 de la rue Saint-Benoît, comme le 42 de la rue Bonaparte, est entré dans l'histoire de la littérature française du XXe siècle. Mais rue César-Franck, où vous habitez maintenant et dont le nom, lui, n'est pas entré dans l'histoire, Madame Fernández vivait dans la même austérité, attentive. veillant avec trop d'attention peut-être sur sa fille Irène et sur son fils Dominique. Dominique, vous entrez vraiment en scène, monsieur. Petit garçon élevé séparément par une mère très présente et de loin par un père absent mais très présent, lui, dans ces lieux presque de légende, où l'on parlait sans fin de littérature, oui, mais hélas aussi de politique, et où l'on aiguisait des plumes parfois dévergondées dans le cognac et le whisky. Votre enfance, nous dites-vous, ne fut pas très heureuse. Vous la dites aussi violente et marquée par de très proustiennes crises d'asthme. Au lycée Buffon, où vous poursuivez votre scolarité, quelques professeurs vous marqueront profondément. L'un d'eux, curieusement, s'appelait Jean Bernard. Il enseignait les lettres, il était proche de vous. Il a disparu pendant la guerre. Nuit et brouillard, vous le pensez. Mais vous lisez déjà beaucoup. Votre père vous a transmis un virus dont vous êtes très fier. Des angoisses pourtant vous hantent. Vous aimez les livres. Vous commencez aussi à vous intéresser à l'art. C'était l'époque où une modeste collection publiée chez l'éditeur Braun proposait des petits livres carrés imprimés en noir et blanc avec seulement un bandeau de couleurs sur la couverture. C'est dans cette collection qu'à 13 ans, j'ai moi-même découvert que Monet et Manet étaient deux artistes différents. Telle jeune femme à l'ombrelle de l'un, fine et lancée, l'Olympia de l'autre, froide et nue, longue et grave, me faisait éprouver d'étranges sensations. Vous-même, vous feuilletiez sans fin le petit volume consacré par un professeur Charbonneau à la sculpture grecque, et c'est sur les figures d'Endymion ou de Ganymède que, m'avez-vous dit, vous vous attardiez. Quel sentiment vous poussait déjà à ranger précipitamment le livre dans un tiroir quand, par hasard, votre mère pénétrait dans votre chambre? Vous découvriez la sensualité, oui, dans l'incertitude et dans la gêne. Fils d'écrivain, avec tant d'écrivains penchés sur votre berceau, vous voilà ensuite le plus naturellement du monde en hypocagne, puis en cagne. C'est le temps du lycée Louis-le-Grand et d'un boulevard Saint-Michel qui n'existe plus, Capoulade et le centre Richelieu, la librairie des Puffs anéantie aujourd'hui sous les vitrines des marchands de fripes et de nourriture venus de nulle part. Des amis qui s'appelaient Gérard Granel, André Tubeuf, Michel Deguy forment avec vous un groupe solide qui lit tout ce qu'il peut lire, en discute ensuite à l'infini. En ces années-là, qui vont durer longtemps, ce n'est qu'à votre troisième tentative que vous intégrerez l'École normale supérieure, vous avez tout appris, dites-vous, tout. Ce n'est pourtant pas ce que certains de vos camarades m'ont dit. Ainsi, André Tubeuf, philosophe, musicologue, comme on peut être poète, vous dément sur ce point. En Cagne, dit-il, on apprend généralement à être cultivé. Or, vous-même, en arrivant en Cagne, vous étiez déjà cultivé. Vous aviez déjà tout appris. En fait, vous les étonnez tous, vos petits camarades. Par votre aisance apparente, la désinvolture est-elle empruntée à ce père que vous nous avez dit vous-même si bellement désinvolte? La désinvolture, donc, avec laquelle, ayant un texte classique à étudier, et alors que tous les autres arrivent avec une édition bon marché, c'est avec un volume de la collection de la Pléiade, déjà élégamment fatigué, que vous débarquez parmi vos camarades. Comme par hasard, le marque-page du volume en question, un bossuet peut-être, se trouve à un jour être une carte signée Paul Valéry, en toute simplicité. En fait, vous les bluffez tous, vos amis. L'un d'entre eux nous l'a dit. Dès ces années-là, vous étiez un esthète et vous saviez tout. Ainsi ai-je sous les yeux une dissertation par vous rédigée à cette époque et que je crois vous avez oubliée, mais que j'ai retrouvée, où, évoquant Virgile et Victor Hugo, ce que vous dites de la poésie est d'une étonnante clairvoyance. Le poète, affirme Dominique Fernandez qui n'a pas 20 ans, le poète, ouvrant ses yeux à la puissance des choses extérieures, ne s'émerveille pas tant qu'il ne cherche à se rendre maître de son émoi, à admirer, infléchir et flatter l'indifférence des formes par la séduction de son art, à plier selon les désirs de son corps les forces vives de la nature, l'exubérance et l'ivresse selon l'ordre et la beauté. Est-ce que tout le Dominique Fernandez que nous connaissons ne serait pas déjà là ? Cagneux, vous avalez littéralement tout Balzac. Vous dégustez Stendhal jusque dans ses messages les mieux cryptés. Vous dévorez tout Dostoïevski, tout Thomas Mann. On évoque, parlant de vous, l'un des personnages de Thomas Mann, Tonio Kröger, qui, dans le roman éponyme de Mann, découvre avec ivresse la vie. Mais vous, vous êtes un sage et les ivresses seront pour demain. Du côté de Balzac, un personnage surtout vous fascine, c'est Vautrin, le grand manipulateur, l'abbé Herrera qui recueille Lucien sur la route d'Angoulême. Vous rédigez une dissertation sur Vautrin qui sera si bien remarquée qu'on vous invitera dans la foulée à en faire le sujet d'un exposé oral. Seulement, on vous suggérera gentiment, bien sûr, de ne pas vous attarder, comme vous l'avez fait dans votre copie écrite, sur les mœurs que vous devinez à Vautrin, et qui ne sont pas trop difficiles à deviner d'ailleurs. On vous le demande, vous ne vous attendiez pas, vous êtes étonné, mais après Balzac, vous passez peut-être à la princesse de Clèves, et on ne vous reprochera sûrement pas les sentiments que vous pouvez prêter à ces dames. Votre ambition est d'obtenir une agrégation de lettres classiques, et vous vous y préparez comme tout bon petit normalien parmi les Degui et les Tubeuf qui nous parlent de vous aujourd'hui. Votre vie est parisienne, 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 un peu grise peut-être. Est-ce à cette époque que vous traversez une manière de crise mystique qui vous fera vous poser des questions qui ne sont peut-être pas encore les bonnes et auxquelles vous n'aurez de toute façon pas de réponse encore? Et voilà qu'une déflagration d'une violence inouïe va se produire dans votre vie. Deuxième chapitre de notre histoire. Dans la nouvelle édition de votre ouvrage « Mer Méditerranée », publié pour la première fois en 1965, vous nous le racontez magnifiquement. Vous avez enfin été reçu à Normal en 1950 et vous pouvez souffler. Un aumônier, l'abbé Brien, dont vous serez longtemps très proche, vous emmène à Rome avec un groupe de camarades. Et c'est parvenu près de Gênes que vous poussez le cri qui, à la fin de l'opéra de Berlioz, est celui des Troyens balayant à jamais les scrupules d'aînés qui tend Carthage et Didon. Italie, Italie. Ce fut, dites-vous, un véritable choc culturel. Vous nous le racontez avec une belle émotion. Nous dressâmes les tentes et courûmes ensuite vers la mer. On se croirait déjà du côté de Virgile. C'était la première fois, poursuivez-vous, que j'ai rencontré la Méditerranée. La première fois que j'entendais la musique du ressac et que je ne grelottais pas nu. Le murmure affectueux des vagues, la pureté du ciel, les parfums de l'été, la tiédeur de la nuit, le bien-être du corps, tout se conjugue à me remplir d'une poignante émotion. Le ressac et le murmure affectueux, s'il vous plaît, de la mer, le voilà votre choc culturel. Pendant quelques jours, camarades et abbés, vous-même, vous allez la boire jusqu'à l'ivresse, cette Italie toujours brûlante, à mesure que vous y enfoncez davantage. Et de retour à Paris, vous prenez la décision qui changera votre vie. L'Italie est votre vie, c'est une agrégation d'Italiens que vous allez préparer. Vos professeurs mettront quelque temps à le comprendre. Après votre père, avec le culte du souvenir de ce père à l'absence si présente, l'Italie deviendra brutalement, délicieusement, la deuxième source de votre carrière d'écrivain. Vous sentez l'Italie comme un formidable souffle de liberté, une ouverture au monde qui vous ouvre des portes que jusque-là vous aviez cru irrémédiablement cadenassées. Vous avez 21 ans. Et c'est évidemment par l'Italie que vous entrerez en écriture, avec l'un des grands écrivains italiens du milieu du XXe siècle, Pavese. C'est à lui que vous allez consacrer votre thèse. C'est Cesare Pavese qui s'est suicidé en 1950, en rupture du Parti communiste comme au bout d'une histoire d'amour. « La mort viendra et elle aura tes yeux », écrivit-il, s'adressant en poème à la femme aimée. Ce Pavese, qui poète donc, romancier, est aussi l'auteur de l'admirable « Métier de vivre », ce journal posthume qui fut pour tant d'entre nous, à 20 ans, une magnifique et douloureuse leçon d'incertitude. Sur votre lancée italienne et poursuivre là vos années de normalien, vous ne pouvez dès lors que partir pour l'Italie, repartir. La rue d'Ulm avait alors de jolis arrangements avec le ciel, surtout le ciel d'Italie. Et vous repartez. Votre première étape en 1951-1952, c'est tout naturellement une autre école normale, celle de Pise, fameuse entre toutes, dont le grand palais des Cavalieri domine une vaste place où c'est pourtant l'équilibre rigoureux d'une renaissance toscane un peu sévère qui vous enferme encore. Vous n'êtes pas encore vraiment chez vous et vous ne resterez qu'un an à Pise, trop sage pour vous. Il vous faut vous brûler davantage. C'est une autre Italie plus ardente que vous désirez et vous vous en rapprochez déjà en gagnant Rome l'année suivante. Troisième chapitre dès lors de notre histoire où Dominique Fernandez, encore jeune homme, devient en un an ou presque un homme du monde dans la bonne société italienne. Le Centre culturel français de Rome est une institution. L'ambassade de France à Rome que vous fréquentez est un monument. L'Académie de France à Rome que vous voyez de loin est un phare. La société française ou franco-italienne de Rome est, elle, une manière d'aristocratie bien particulière. À Rome, plus ou moins introduit par Jeanne Fernandez, qui était la mère de votre père, vous devenez citoyen à part presque entière de ce petit monde amusant, joliment snob et bavard infiniment, qui vous amuse et que vous savez observer avec un sourire. De là, vous parcourez bien sûr la Rome de tous les temps, vous frémissez comme nous devant les saintes en extase du Bernin, mais vous vous attardez probablement davantage dans les musées du Capitole et devant ces antiques si chères aux voyageurs du Grand Tour d'autrefois. Et vous fréquentez les salons. Il faut dire que vous étiez prédestiné, votre grand-mère, la mère de Ramon, n'avait-elle pas, elle aussi, un salon, comme on dit ? Le père Jean-Charles Roux, fils d'ambassadeur et frère d'écrivain, vous fait rencontrer alors une princesse italienne, mais bien française. Elle porte un joli nom, mais c'est son nom de jeune fille qui lui donnera plus tard une autre vie. Elle s'appelle Diane, vous vous reconnaissez en elle. Commence alors avec la princesse italienne, née Diane de Margerie, une longue et belle amitié, d'abord faite de grandes conversations dans les jardins, les cafés, les palais de Rome, puis ponctuée de lettres échangées qui constituent peut-être, qu'en savons-nous, une des belles correspondances littéraires d'un siècle qu'on ose à peine dire passé. Vous évoquez ensemble les écrivains que vous aimez, Giorgio Bassani ou Moravia. Pasolini, lui, qui vous sera si cher, n'a pas encore publié son premier roman. L'amitié qui vous lie est bien particulière puisque c'est l'Italie qui l'a fait naître et qui en constitue le ciment. Fille d'ambassadeur, elle aussi, la jeune femme a connu l'Angleterre, la Chine, un Paris qu'elle n'a pas toujours aimé. Pour elle, comme pour vous, l'Italie est le creuset d'où va naître une écriture. Mais commence déjà le quatrième chapitre de la vie de l'encore bien jeune Dominique Fernandez. Choc culturel suite Naples. En 1957, vous êtes nommé professeur au Centre culturel français de Naples. Et là, c'est le délire, l'euphorie, l'extase, oserais-je dire. Naples n'est ni Florence, ni même la Rome baroque. Le Naples de ces années-là, celle des années 50, c'est encore celle de l'or de Naples, la vie grouillante d'un petit peuple dans le ventre d'immenses palais délabrés que traverse de part en part cette véritable cour des miracles, longue de plus de 2 kilomètres, qui s'appelle Spacca Napoli. Mais c'est, et pour l'éternité, la Naples du baroque le plus exacerbé. La Naples de l'or et du sang, le sang de l'ampoule miraculeuse de San Gennaro qui, chaque année, redevient sang liquéfié devant des milliers de fidèles en prière, et la Naples de l'opéra. L'opéra. Comme vous, monsieur, mais hélas à un degré bien moindre que vous, nous portons l'Italie en nous. Et comme à vous, l'opéra nous est aussi une patrie. Au Théâtre San Carlo, vous allez pour la première fois aborder ce royaume de légende où règnent des reines humiliées et des courtisanes trompées dans les flottements belcantistes d'un Bellini aux marges de Chopin. Les grands appels d'une Tosca qui n'a jamais vécu que d'art et d'amour vous font trembler comme nous. Et l'immense Théâtre San Carlo devient pour vous un prodigieux laboratoire, le laboratoire d'une transmutation qui va faire de l'auditeur attentif et grave que vous étiez, que vous êtes toujours, des derniers quatuors de Beethoven ou de la messe en si, un amant passionné de ces déesses crucifiées. C'est la Norma d'alors, Anita Cerqueti, trop oubliée, mais qui pourtant remplaça Maria Callas après une soirée de scandale à Rome. C'est la Leonora de la force du destin, la Forza de Verdi, qui s'appelle pour vous Renata Tebaldi et vous ouvre la voie. Une Tebaldi qu'on nous présente trop souvent comme la rivale de Maria Callas, alors que vous savez si bien que leurs voix à tous deux se ressemblaient si peu et que vous les avez aimées toutes les deux. Mais vous découvrez aussi d'autres chants, d'autres voix, des voix oubliées. Orfèvre en la matière, votre ami et mon cousin André Tuboeuf nous dira qu'au retour de ses séjours, nul ne savait comme vous dire la valeur, elle aussi musicale, de chacun de ces mots de livret d'opéra qu'il est aujourd'hui de si bon goût de traiter par le mépris. Bien des années plus tard, au Festival d'Édimbourg, où j'aurai le bonheur de me retrouver en votre compagnie, je vous entendrai m'expliquer avec une précision amusée les mille et une tendresses et autant de cruautés des opéras de Monteverdi que nous écoutons ensemble, de la pastorale attendrie et tragique de l'Orfeo, à l'ironie grinçante et pourtant passionnée du couronnement de Poppée, réinventé par Nikolaus Harnoncourt et peut-être surtout par le metteur en scène Jean-Pierre Ponel. Et plus tard encore, sur la scène du théâtre de l'Archevêché, et par la grâce de Bernard Lefort, j'applaudirai à la mise en espace et en musique de vos réflexions sur ces voix étranges, des voix d'anges à jamais perdues qui étaient celles des castrats, contraints par l'Église sur bien des scènes italiennes à chanter tous les rôles de femmes. Entre-temps, vous aviez écrit votre Porporino ou les Mystères de Naples, ce beau livre qui, quelque part entre le Sarrasine de Balzac, cher à Roland Barthes, et la Consuelo de George Sand, raconte l'itinéraire semé d'embûches et de jalousies, de sombres vengeances et de poignards sanglants, d'un chanteur beau infiniment dont on a tranché les attributs mêmes de sa masculinité pour en faire un de ses anges. À l'archevêché d'Aix, c'était tout le monde du plus authentique des bel canto qu'on avait réussi à faire revivre autour de vous. Nous n'oublierons pas la voix déjà un peu brûlée du contre-ténor James Bowman, ni la silhouette d'un ami, Pierre Roman, aujourd'hui disparu en petit abbé de cour. Cette passion de l'opéra vous animera toute votre vie. En compagnie de l'un de vos amis, Charles Dupéché, qui a consacré un beau livre au Palais Garnier, ce sont tous les opéras du monde que vous allez parcourir. Pourtant, c'est à Naples, donc, à l'entrée de ce Mezzogiorno, qui vous sera si cher, parmi les ailes déployées d'anges émus, au cœur même de la cité de ce prince Sansevero, qui inventa à ses victimes une mort qui leur donnait la beauté pour l'éternité, que vous vous êtes saoulés pour la première fois de ses musiques et de ses voix. Et pourtant, le verdict tomba. Comme la Florence de Dante, d'où l'exil était le châtiment suprême, il vous a fallu quitter Naples. Vous vous en souvenez si bien, c'était le 28 février 1958, on était pudibond dans les derniers temps d'une 4e République moribonde, et vous parliez d'un écrivain français qui lui aussi parla d'une étrange Italie. Vous vous étiez donc aventuré à tracer un portrait de Roger Vaillant. Roger Vaillant, un des seuls écrivains communistes que nous ayons en France, dites-vous, ce qui choqua certains, alors même que vous parliez au cœur d'une Italie où la moitié de la planète littéraire était encore sous l'emprise de Gramsci ou du camarade Togliatti. Mais vous allâtes jusqu'à qualifier Roger Vaillant d'écrivain érotique. Avec lui, avez-vous osé dire, en public, à l'Institut français, on ne sait jamais qui couche avec qui, ni qui va coucher avec qui. Vous êtes-vous aventuré un peu plus loin ? En tout cas, ces paroles avaient résonné là, dans cette très auguste salle, ou s'il était de bon goût de se pâmer déjà devant les futures vieilles gloires de ce qui allait devenir le nouveau roman, il était des territoires sur lesquels on ne s'avançait pas. Bref, le couperet tomba, et professeur agrégé, bagnaudant plus ou moins par faveur sur les routes d'Italie, on vous renvoya à vos chères études, ou plus précisément aux chers étudiants auxquels, par nature, vous deviez naturellement vous consacrer. Changement radical, nouveau cap, vous vous retrouvez à Rennes. Vous n'êtes pas heureux à Rennes, et vous le dites sans embâge. Aussi, Rennes, est-ce toujours l'Italie que vous portez en vous ? La preuve, c'est que vous publiez, dès cette année 1958, votre premier livre, consacré tout naturellement aux écrivains italiens de votre temps, les Moravia, les Carlo Levi, que vous avez bien connus. Le livre séduit un éditeur, Bernard Privat, et vous entrez dans une maison qui, toute votre vie, sera la vôtre. Dès décembre 1958, tout en continuant à faire acte de présence, il y a-t-il un autre mot, à Rennes, vous vous retrouvez citoyen à part entière de ce petit monde parisien auquel vous vous défendez peut-être d'appartenir, mais qui ne reste pas moins le vôtre, presque celui de votre père, quelque part entre la Seine et Montparnasse, la rue de Bourgogne où vous habiterez, et l'Odéon. Entre la jeune femme amie avec qui vous échangiez de si belles lettres, plus n'est besoin de vous écrire, et vous vous mariez. Dominique Fernandez mariée. L'image est toujours dans nos mémoires, mais le couple que vous formez avec celle qui va d'abord signer de son côté tant d'articles sous le nom de Diane Fernandez, ce couple que vous formez est un véritable couple, uni par les lettres et l'Italie, mais aussi par une affection profonde. D'où les deux enfants que vous désirez si fort et que vous aurez, Laetitia, qui a choisi la télévision, et Ramon, qui ne pouvait pas porter un autre prénom et que j'ai croisé presque par hasard, économiste au service de la République, dans l'un des palais de cette République, lorsque, comme l'exige le règlement de notre compagnie, je suis allé vous présenter, c'est le terme, à notre protecteur. Mais d'où aussi le retour en Italie, désormais à deux. C'est l'Italie des îles, maintenant, où vous allez vivre et écrire tous les deux, et que vous dites si bien, rouge couleur du sang, or comme les ailes des anges, et noir comme le noir des veuves de mille violences. Mais vous vous rendez vite compte, cette Italie porte en réalité les couleurs d'une autre terre, plus lointaine et si proche aussi. Cette Italie du Sud, c'est l'Italie espagnole. Ces couleurs sont celles de l'Espagne, austère et passionnée, grouillante d'une vie où la mort chaque jour se profile au-dessus des palais baroques ou derrière les simples rideaux de coton qui cachent sa véritable nature. C'est l'Italie modelée par l'Espagne et bien sûr aux couleurs de votre père, vous, le fils du Mexicain. À 15 ans, 20 ans de distance, c'est l'ombre ambiguë et pour vous glorieuse de Ramon Fernandez qui plane encore sur vous. En cette mer Méditerranée où vous êtes plongé, c'est la figure d'un père perdu et peut-être ici retrouvé que, sans vraiment le savoir, vous avez voulu enfin étreindre. Pourtant, les îles sont éphémères, il y a toujours des retours. Et vous vous retrouvez encore une fois à Rome où vous n'êtes pas heureux davantage. Vous parlez même de véritables cauchemars. Soyons honnêtes, comme il arrive parfois à certains professeurs qui ont quelques activités ailleurs, vous ne passez toutes les semaines qu'une seule nuit à Rennes. Mais vous la payez cher, cette nuit. Ou plutôt, vous payez cher les 6 autres nuits que vous passez ailleurs et les journées qui vont avec. À Rennes, on vous en veut de n'être pas rennais à part entière. Et puis, vous commencez à publier livre sur livre, la presse parle de vous, parle beaucoup de vous, parle beaucoup trop de vous, vous avez du succès, beaucoup trop. Vous écrivez dans cette presse et vous les exaspérez, vos collègues, avec cette sacrée Italie, ces anges frémissants et les voix si tendres de ces chanteurs dont vous enchantez vos lecteurs à Paris et partout ailleurs. Pour eux, pour vos collègues, la coupe sera pleine certains jours de novembre 1982. Le 15 novembre, pour être précis, que les membres d'une société littéraire qu'on nous assure fameuse vous décernent dans un restaurant aussi connu pour cela son prix annuel, un chèque de quelques sous mais l'assurance d'un tirage de quelques centaines de milliers d'exemplaires. Ce prix littéraire vous fut d'autant moins pardonné par l'espèce bien particulière des collègues jaloux que sous le titre « Dans la main de l'ange », c'est encore d'un écrivain italien que vous faites chose romanesque. Mais d'un écrivain, poète et cinéaste, à la réputation sulfureuse, nous reviendrons sur Pasolini. L'université déclare alors en substance qu'elle n'avait pas besoin d'entretenir une danseuse. Ça aurait pu être un joli mot, surtout à propos d'un amateur d'opéra, mais vous ne l'appréciâtes guère, et après avoir plus ou moins encore essayé de passer un semestre par an à Rennes, et n'avoir plus été payé que 6 mois sur 12, l'université faisant les économies qu'elle peut sur ses premiers sujets, vous avez fini par rendre les armes. Vous êtes écrivain, vous étiez voyageur, et en 1989, vous quittez l'université, point final. Ainsi s'achève la première partie de la véritable histoire de Dominique Fernandez, écrivain, fils d'écrivain, amoureux de musique, d'Italie et d'art baroque, devenu désormais un grand voyageur. Mais l'Italie, peu à peu, ne suffit plus à ce grand voyageur. Vous voulez aussi voir du côté d'ailleurs. Encore un nouveau chapitre de ce roman d'apprentissage qui semble avoir été celui de toute votre vie. Mais ce que vous cherchez à présent ailleurs, c'est encore ce que l'Italie vous a donné. Il est parmi vos livres l'un qui nous est particulièrement cher. Sous le titre « La perle et le croissant », c'est l'une des plus belles réflexions sentimentales qu'il nous ait été donné de lire sur l'Europe. On pense à Stendhal, nous parlant encore lui aussi de l'Italie, de Rome, de Naples et de Florence. Pour vous, il s'agit de l'Europe baroque de Naples à Saint-Pétersbourg, vous l'indiquez en sous-titre de votre livre. Ainsi marquez-vous de manière précise ce qui deviendra votre territoire. La perle et le croissant a été publié en 1995 dans la prestigieuse collection Terre humaine, dont, après les rois de Tulé de son créateur, les deux volumes suivants furent en 1955 Triste tropique de notre confrère Claude Lévi-Strauss, et en 1956, la réédition des Immémoriaux, la face polynésienne moins connue du poète pour nous chinois de stèle, Victor Segalen. Quel parrainage! Mais au-delà du seul baroque, c'est de l'Europe tout entière que vous nous parlez. Avec votre ami Ferrante Ferranti, qui en fit les belles photos, vous nous avez donné là une multitude d'images d'une Europe qui, après la chute du rideau de fer, redevient peu à peu la nôtre. Et si nous ne partageons pas la sévérité de certains de vos jugements, notamment sur Salzbourg, où non seulement vous parlez de provincialisme et de vulgarité, encore que Mozart et même plus près de nous, l'écrivain salzbourgeois Thomas Bernhardt, ait partagé votre sentiment, mais où vous faites aussi preuve d'ironie cinglante à l'endroit de ce qui est pour nous et pour beaucoup le rendez-vous incontournable d'une matinée salzbourgeoise, à savoir le café Tomaselli, dont vous n'avez pas aimé les tartes aux fraises, mais où les chocolats chauds sont admirables. Les avez-vous vraiment goûtés, ces chocolats chauds? Si donc nous ne partageons pas certains de vos coups de cœur, je veux dire de vos coups de griffe, cette Europe que vous nous réapprenez à arpenter, vous la décrivez en érudit, mais surtout en poète. Seul ou avec votre ami Ferrante, vous avez publié près d'une soixantaine de livres. Il y a des romans, des récits, des essais que nous avons tous lus, ou presque. On l'avouera pourtant, plus que tout autre de vos ouvrages, c'est à cette perle-là et ce croissant-là qui nous conduisent jusqu'à tel Adonis du pôle Nord, découvert par vous au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, une sculpture italienne en pleine Russie des Tsars, qui nous donne l'envie de suivre les traces que vous nous avez laissées. Ainsi sommes-nous revenus avec vous à Otto Beuren et à sa bibliothèque, qu'on dirait issue d'un jeu des perles de verre selon Hermann Hesse, ou à Zwiefalten en Allemagne, ou à Dresde, alors encore en ruine, ou dans cette forêt de Bethléem, près de Coux, en Tchécoslovaquie, où c'est, je crois, Elsa Triolet, la première, qui nous fit découvrir les rochers taillés de Matthias Braun, le même Matthias Braun qui hérissa de ses statues le pont Charles à Prague. Pourtant, votre Europe baroque à vous, vous l'avez poussée beaucoup plus loin. Vous nous parlez même du baroque brésilien et de l'Aleijadinho, le sculpteur lépreux, difforme, que je crois pourtant avoir admiré avant vous grâce à un Pierre Caste, ce cinéaste de tous les talents qui m'avait conduit à Congonhas, où les statues des 12 prophètes sont comme un écho grinçant aux figures dressées par Matthias Braun sur le pont Charles. Mais j'ai dit Saint-Pétersbourg, et c'est pour le moment le dernier chapitre de votre histoire. Et depuis une dizaine d'années, presque autant que votre mer Méditerranée, c'est la Baltique telle qu'elle vient mourir en vagues de glace au pied des terrasses d'autres châteaux baroques, qui est devenue la nouvelle patrie de votre inspiration. Votre premier dictionnaire, qu'on nous assura ensuite amoureux, publié jadis sous un titre qui n'était pas celui d'une collection, vous étiez un inventeur, était celui de l'Italie. Nous sommes nombreux à y avoir trouvé notre miel. En 2004, vous avez publié un second dictionnaire amoureux, celui de votre Russie. Une Russie découverte pour vous à 15 ans, en 3 jours et 3 nuits, m'avez-vous dit, grâce à Tolstoï et au personnage de Guerre et Paix. Une Russie, encore URSS, où vous n'êtes allé que de justesse pour la première fois qu'en 1986, mais qui vit désormais si fort en vous. Ainsi est-ce à elle que vous devez ce roman d'une extrême rigueur, en même temps que d'une humanité bouleversante, qu'est votre Tribunal d'honneur, publié en 1997. Peut-être entrons-nous là dans le vif du sujet. Qui dit tribunal dit juge, et qui dit juge dit accusé. Le tribunal en question est celui qui, en 1893, contraignit Tchaïkovski, nous revoilà ainsi du côté de cette musique où votre ferveur s'épanouit si bien, qui contraignit donc Tchaïkovski à se suicider. Non qu'il eût trahi ou perpétré quelques forfaitures, bien sûr il n'avait pas assassiné, pas même commis le plus petit larcin, mais dans l'esprit de ses pairs et de ses juges, il avait néanmoins trahi un ordre supérieur qui était celui de la société de son temps, notamment la société russe. Pouchkine et Tolstoï nous ont montré des débauchés. La femme de Pierre Bezoukhov était une catin, mais aucun des personnages de Tolstoï ou de Pouchkine, au moins Pouchkine ne le dit nulle part, n'a-t-il jamais choisi un mode de vie ou, disons, une façon d'aimer qui fut contraire à ce que les juges de Tchaïkovski appelaient les lois de l'honneur, pour ne pas évoquer plus directement ce que, dans leur rigueur morale, aveuglément crispés sur leur notion à eux du nommable et de l'innommable, ils appelaient sûrement les lois de la nature. Et nous y voilà, monsieur. Lorsque j'ai parlé de ce qui a été pour vous vos sources d'inspiration, j'ai parlé de votre père, de l'Italie, de la musique. Mais est-ce bien tout? Souvenez-vous. Dans les petits livres de chez Braun, c'était les statues des jeunes héros que vous regardiez le plus intensément. Pourquoi? Pourquoi, dans tout l'œuvre de Balzac, est-ce le personnage ambigu de Vautrin, le forçat protecteur de jeunes hommes qui vous a tant fasciné et qu'on vous censura? Pourquoi cette autre censure qu'on vous imposa quand vous souhaitiez parler librement de Roger Vaillant? Pourquoi cette censure est-elle demeurée si présente dans votre esprit? Et pourquoi est-ce par la grâce de Pasolini que vous obtiendrez un grand prix littéraire? Pasolini, le poète, le romancier, mais aussi le cinéaste-poète qui nous montra des voyous à gueule d'ange traînés dans les rues de Rome, ou des jeunes gens trop beaux, porteurs de la grâce parmi d'autres qui avaient oublié le bonheur. Pasolini, qu'on retrouvera comme le Caravage, mort, mais lui battu à mort sur une plage près de Rome. Et à travers ce croissant baroque que vous avez tracé à travers l'Europe, pourquoi sont-ce toujours les mêmes thèmes qui reviennent le plus souvent? La statue du vice masquée de Mathias Braun au château de Coux, ou le faune dit Barberini à la Glyptothèque de Munich? Et pourquoi, pour en revenir à cette Russie qui apparaît pour vous comme le dernier amour d'un homme qui n'aura jamais fini d'aimer, pourquoi est-ce précisément à Tchaïkovski, au crime qui fut le sien, à Pouchkine, dont vous vous demandez d'ailleurs en passant si sa passion si hautement déclarée pour la jolie Nathalie n'était pas un alibi destiné à cacher d'autres passions, pourquoi est-ce à l'un et à l'autre que vous consacrez quelques-unes de vos plus belles pages? Autant des questions que nous posons, autant de réponses que vous nous donnez sans l'ombre aujourd'hui parmi nous, sans d'une hésitation. D'aucuns ont voulu se défendre des prétendus péchés dont voilà un demi-siècle il y allait si souvent de soi, d'accabler ceux qui ressemblaient à vos héros, que vous avez refusé, vous, toutes les hypocrisies, jusqu'au silence. Je sais, monsieur, que devant nos confrères réunis comme nous le sommes aujourd'hui, il n'est pas d'usage, loin de là, de s'attarder, fût-ce en passant, sur la vie intime de tel ou tel d'entre nous, à plus forte raison sur celle du confrère que nous accueillons. Et si je m'aventure ce soir sur ce territoire que d'aucuns trouveront peut-être trop brûlant, c'est parce que vous avez fait de ce sujet une autre source encore, essentielle, c'est là, de toute votre inspiration, de votre écriture, mais aussi de vos engagements. Toute leur vie, certains évoquent l'unique amour d'une épouse ou d'une maîtresse trop aimée. D'autres ont joué les Don Juan, nous l'ont dit sans phare, caracolant sans feindre à travers l'Europe des vertus outragées des femmes conquises, sans vraiment choquer personne. Souvenez-vous, c'est la scène où, après avoir manqué de respect à son père et maltraité Monsieur Dimanche, que Don Juan défie Dieu en tentant de faire jurer un pauvre air qui a soulevé l'ire des censeurs de Molière. Et non, sa conduite avec Elvire, et moins encore les galanteries plus que lestes qu'il prodigue à Charlotte ou à Mathurine. Et de tout cela, Elvire ou Mathurine, comme Roméo et Juliette, Pétrarque et Laure, Dante et Béatrice, de tout cela, on a toujours pu parler sans masque. Mais vous me l'avez dit un matin face au Luxembourg, jamais au lycée ni en Cagne, à l'école normale non plus, on ne vous a rien dit d'autre de la rencontre de Verlaine et de Rimbaud que la turbulente amitié d'après-boire qui existait entre eux. Jusqu'à l'âge de 20 ans, vous avez vécu dans la situation d'un enfant, puis d'un jeune homme, d'un homme enfin qui a peu à peu découvert ce qui était l'essentiel de sa vie et a mis encore 20 ans à se décider à en parler ouvertement. Pour vous, c'est 1968 qui représente l'explosion d'une liberté qu'on croyait bien plus que la plage, trouvée sous les pavés qui ne l'ont jamais vraiment recouverte. C'est 1968, dites-vous, qui a fait sauter le verrou. Pour beaucoup, jeunes gens surtout, qui le plus naïvement du monde, suppliaient le monde de faire, pardonnez-moi monsieur l'expression, de faire l'amour et non la guerre, 1968 aurait été le vrai moment d'explosion de toutes les vraies libertés. On peut en discuter, mais après le bain de votre jeunesse dans votre première Méditerranée, 1968 fut pour vous, nous assurez-vous, un autre choc culturel. Vous penchant sur votre vie passée, vous en avez découvert, redécouvert les mensonges et les inquiétudes, tous les petits secrets qui avaient été les vôtres et que vous n'aviez même pas osé partager avec ceux qui, comme vous, en étaient alors les détenteurs honteux. C'est à 43 ans, clamez-vous, que vous avez commencé à vivre sans honte et à parler librement. Et vous avez parlé alors, Dieu que vous avez parlé. Un livre publié 10 ans après, 1968, L'Étoile Rose, n'est pas une déclaration de guerre, c'est un acte de foi. À travers une trame romanesque, dont vous me pardonnerez de dire qu'elle est assez mince, vous racontez enfin, sans déguisement, l'itinéraire qui a été le vôtre. C'est un livre d'histoire à la fois personnel, social, voire juridique. Plus tard, vous poursuivrez ce récit, vous lui ajouterez des gloses, afin de bien montrer à vos lecteurs que vous racontez là, n'est pas seulement la défense et illustration d'une manière de vivre ses amours, mais surtout peut-être une manière de vivre, vivre tout court. Ce que vous y exprimez, c'est une attitude critique vis-à-vis de la société, voire du pouvoir qui vous a si longtemps contraint au silence, à une forme de solitude extrême. Voilà pourquoi j'ai parlé d'engagement. Pourtant, cet engagement, vous en refusez les manifestations exubérantes ou sectaires. À votre manière, vous qui parliez de la figure austère, pascalienne de votre mère, vous êtes aussi un janséniste. Vous ne réclamez que la beauté pure, mais le droit absolu, incontournable à cette beauté-là. Une beauté très pure, à laquelle vous avez consacré en 2001 ce qu'on appelle un livre d'art, reproduction et photographie, sous le titre qui lui aussi ne dissimule rien, l'amour qui ose dire son nom. Endymion ou Saint-Sébastien, un ange ailé de Canova adorant à Vienne une impératrice morte, c'est en esthète, toujours en esthète, que vous admirez l'image de vos héros. À cet amour-là, à cette forme de beauté, vous ne cessez de prodiguer des déclarations de fidélité. Loin de vous, dans la mise en vie de votre mise en scène romanesque ou esthétique, l'idée de vous égarer à gauche ou à droite. C'est la droiture et la fidélité que vous revendiquez, en même temps que votre liberté d'être ce que vous êtes, et cela face au monde entier. Et c'est en cela que votre engagement a quelque chose d'exemplaire dans la rigueur dont il témoigne. L'autre face de cette volonté intransigeante d'être vous-même et de vous montrer tel que vous êtes, c'est le souhait que vous avez formulé auprès de celui qui vous reçoit aujourd'hui de ne pas seulement parler de l'Italie, du baroque, de certaines musiques autant de passions qu'il partage avec vous et qui l'ont conduit presque à revendiquer le plaisir de vous accueillir pour évoquer, une fois de plus, Maria Callas ou l'extase de la bienheureuse Ludovica Albertoni dans une église du Trastevere, mais bien loin de ses errements à lui d'aborder le plus librement qu'il le pourra cet engagement qui est le vôtre et qui donne son vrai sens à toute votre œuvre, cette œuvre pour laquelle vous voilà parmi nous ce soir. Mais je ne me serais pas acquitté jusqu'au bout de cette mission si au terme de ce discours, je n'en revenais pas à votre père. Ayant commencé par lui, je bouclerai peut-être une boucle en terminant avec lui. Vous aviez déjà parlé de lui dans des romans où il apparaissait masqué, lui le Mexicain, sous le soleil d'Agrigente. Aujourd'hui, c'est sa vraie vie que vous êtes en train d'écrire, et ce faisant, vous jetez le masque. Le sien, bien sûr, mais le vôtre aussi, complètement. Pardonnez-moi d'avoir recours peut-être à un trop grand mot, mais s'il y a jamais eu en vous une plaie, c'est cette blessure qu'en nous racontant enfin la vraie vie de Ramón Fernández, vous débridez enfin. Dès lors, pour revenir à l'histoire de ce Dominique Fernández que bien maladroitement peut-être j'ai tenté pour ma part de raconter, je crois que votre entrée parmi nous coïncide, monsieur, avec une nouvelle partie de votre vie. La vie du Dominique enfin libre d'apparaître aux autres, mais surtout à lui-même, en être totalement libre. Sans vous trahir, comme sans heurter la sensibilité d'aucun de ceux qui sont aujourd'hui vos confrères, j'espère avoir su accueillir parmi nous un vrai romancier, un esthète, un homme d'une immense culture qui toute sa vie a voulu et su la faire partager à d'autres. Et si j'ai pu, ça et là, m'égarer en chemin, je vous prie, monsieur, comme je supplie mes confrères, de me le pardonner. Romancier moi-même et racontant cette histoire, votre histoire, je n'ai peut-être fait là qu'esquisser un roman. Un de plus, un de trop. Vous avez pris tant de risques que je pouvais bien oser celui-là. C'est pourtant sans le moindre risque que je peux maintenant vous lancer le sésame rituel qui clôt rituellement nos séances. Bienvenue parmi nous, monsieur.
Vous venez d'entendre la retransmission de la réception sous la coupole de Dominique Fernandez de l'Académie française qui s'est déroulée le 13 décembre 2007 à l'Institut de France.